Bonsoir, comment allez-vous? Que pensez-vous de votre tête? Je ne parle pas du fonctionnement de votre cerveau, mais de l'aspect de votre tête. De votre visage, de vos cheveux ou de la forme de votre crâne. Vous savez qu'il fut un temps pas si éloigné où les humains n'avaient pas de miroir et ne savaient donc pas trop à quoi ils ressemblaient. Quand les miroirs sont arrivés dans les maisons, c'était quelque chose de très précieux, de très bling-bling. La galerie des glaces au château de Versailles a été conçue pour en mettre plein la vue, pour faire riche. Casser un miroir entraînait 7 ans de malheur, disait-on aux gens de service, pour qu'ils ne les cassent point et en prennent grand soin. Maintenant que nous avons tous des miroirs dans notre salle de bain, mais aussi un peu partout, je me demande si nous en faisons bon usage. Rasage ou maquillage le matin, d'accord. Mais ensuite, pourquoi nous regardons-nous dans la glace? Pour nous réjouir de notre propre image, comme on l'a reproché à ce pauvre Narcisse? Ou pour s'en désoler, regrettant une perfection de photos retouchées sur papier glacé qui, évidemment, n'existe pas? Miroir, mon beau miroir, suis-je la plus belle? Non, tes yeux sont cernés. Non, ton nez est trop pointu ou trop rond. Et ton teint est affreux. Tu n'es pas noir, tu es gris. Ou tu n'es pas blanc, tu es vert. On ne devrait jamais laisser un miroir nous parler comme ça. Mais qui lui écrit ces dialogues à celui-là?
Oui, bonjour, ici Christelle. J'appelle parce que j'aimerais savoir pourquoi on met des néons alors qu'on a toujours l'air malade dessous. Voilà, bonne journée.
Le syndrome de la glace dans l'ascenseur le matin. Bonsoir Christelle. Agnès Beauvais, documentariste, auteure de Lumière sur la ville, une histoire de l'éclairage urbain, édité chez François Bourin et Arte Éditions, livre que vous avez d'ailleurs signé Agnès Beauvais Pavie. Alors Christelle s'interroge sur ce néon, qu'est-ce que c'est? Est-ce vrai?
Alors Christelle, ce qu'elle appelle néon, eh bien, c'est pas du néon. Dans le langage courant, on a appelé néon toutes les lumières qui se présentent sous la forme d'un grand tube électrique qu'on fixe au mur ou au plafond. En fait, le néon, bah, c'est un gaz luminescent qui donne une lumière rouge. C'est-à-dire qu'un tube de néon, c'est transparent.
Ah
et
bon,
quand on fait passer de l'électricité dedans, ce gaz émet des photons d'une couleur rouge.
Ah, moi, j'étais comme Christelle. Je pensais que le néon, c'était un blanc presque bleu.
Absolument pas. Ce que Christelle appelle néon, ce que vous appelez néon, c'est ce qu'on appellerait un tube fluorescent. C'est-à-dire que on a mis de la poudre fluorescente sur les parois du tube, et puis on l'a rempli d'un gaz, qui en général est un gaz, on va dire, plus neutre, ou qui fait une lumière blanche. Et quand on fait passer le courant électrique, là, le gaz devient blanc, puis on a cette poudre qui illumine cette poudre fluorescente, et on a cette lumière. Alors, aujourd'hui, les fabricants de tubes fluorescents, de néons, ont à leur disposition un très très grand nombre de gaz, et puis même au début du siècle, on savait déjà manipuler différents gaz pour donner une lumière bleue, pour donner une lumière jaune, pour donner une lumière verte, parfois en mélangeant avec justement ces poudres fluorescentes ou de la peinture pour essayer d'obtenir différentes couleurs. Et en fait, partout où vous allez avoir, on va dire, des spécialistes de la lumière, des concepteurs lumière qui vont essayer de réfléchir à la luminosité d'un endroit, vous aurez des éclairages qui seront pensés avec des couleurs un peu plus chaudes. Là, par exemple, le blanc ici, il est un peu plus chaud, qui vous donneront pas mauvaise lumine. Mais partout où c'est quelqu'un qui n'a pas accès ni à toutes ces températures de couleurs différentes, à tout ce matériel, ou qui se pose pas la question, qui va au supermarché, qui prend un néon parce que il est de la bonne taille, sans regarder de quel gaz il est rempli, quelle est la chaleur de la couleur, bah effectivement, vous pouvez tomber sur des lumières qui vont vous rendre un peu blafarde dans l'ascenseur.
Vous connaissez le principe des petits bateaux, des enfants, quelquefois des grands enfants, nous posent des questions, quelquefois des très jeunes d'ailleurs aussi, nous posent des questions et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Benjamin, j'ai 6 ans et demi. J'aimerais savoir comment les tremblements de terre se produisent. Merci, au revoir.
Bonsoir Benjamin, c'est Christophe Vigny qui est directeur de recherche au CNRS et également directeur du laboratoire de géologie d'une très belle école où tu iras peut-être un jour, l'école normale supérieure. Comment les tremblements de terre se produisent?
Alors les tremblements de terre se produisent à cause de la tectonique des plaques. C'est quelque chose que tu apprendras un peu plus tard au collège probablement. la surface de la Terre, elle est cassée en grandes plaques qui font des milliers de kilomètres hein, de taille et de superficie. Et ces plaques, elles se déplacent, elles bougent tout le temps. C'est ce qu'on appelle la dérive des continents. Alors, comme elles bougent, elles se frottent les unes contre les autres. Elles tapent, elles coulissent, et puis ça s'accroche et ça se passe pas très gentiment. Et du coup, le tremblement de terre, c'est ça. C'est quand deux plaques frottent un petit peu l'une contre l'autre, ça casse, et le bruit de cette fracture, c'est un tremblement de terre.
Donc en fait, rien n'est jamais fixe ici-bas, Christophe Vigny.
Oui, toutes les plaques bougent les unes par rapport aux autres. Alors, très lentement, à premier abord, quand on y regarde comme ça, on se dit « ça va pas très vite, c'est des centimètres par an ». Un centimètre, c'est pas grand, hein, donc un centimètre chaque année, c'est presque imperceptible. Mais sur une vie d'homme, Benjamin, quand tu seras vieux, tu auras peut-être vécu 100 ans, en 100 ans, un centimètre par an, c'est déplacé d'un mètre.
C'est beaucoup.
Alors un mètre, c'est presque la taille d'un homme, ou sur une maison, par exemple, si la maison est à cheval sur deux plaques tectoniques, les murs vont évidemment pas résister, ils vont se casser parce que la faille qui passe au travers de la maison va décaler les deux morceaux de la maison d'un mètre sur une vie d'homme. Et donc il y a pas mal d'endroits comme ça à la surface de la Terre où on voit les frontières entre les plaques tectoniques, on voit les failles, parce que après des siècles et des millénaires, on voit bien les décalages qui se sont accumulés pendant très longtemps, et petit à petit, à chaque fois que se produit un tremblement de terre.
Christophe Vigny, est-ce que ce déplacement se fait toujours forcément à l'horizontale ? La plaque ne peut pas remonter ou s'enfoncer ?
La tectonique des plaques, elle marche en trois dimensions. C'est en horizontal, bien sûr, et puis un petit peu en vertical. Ça fait des chaînes de montagnes, ça fait des grandes fosses, etc. Après, la plupart, le plus grand du mouvement est en horizontal.
Ouais.
En gros, c'est des centimètres par an en D'accord. horizontal, et c'est seulement des millimètres par an. C'est 10 fois plus petit en vertical.
Et donc, on sait où sont les tremblements de terre quand on voit effectivement ce que vous avez dit, quand on voit les fissures et comment vous faites pour les voir ?
Les grandes failles qui entourent les plaques tectoniques, qui sont les frontières des plaques tectoniques. Alors, on les voit pas toujours. Il y en a une partie qui sont à la surface et qu'on voit. Il y en a qui sont enterrées. Elles sont pas arrivées jusqu'à la surface. Elles sont recouvertes de sédiments. On les voit pas. Elles sont cachées. Et puis, il y en a aussi beaucoup qui sont sous la mer, bien sûr.
À propos de volcans, peut-être avez-vous vu ces jours-ci aux informations télévisées l'actualité des volcans qui est très, très spectaculaire et très tragique pour les habitants, bien sûr. On dirait un peu Gorilla Zenbeck. C'est normal, c'était Gorilla Zenbeck.
Les petits bateaux sur France Inter.
Sur France Inter, Les petits bateaux, et vous avez raison d'écouter cette émission. Je voulais vous dire le livre qu'avait écrit Françoise Thébault, J'ai perdu ma feuille, je vous le dirai donc tout à l'heure.
Bonjour, je m'appelle Noémie, j'ai 7 ans. J'aimerais savoir pourquoi on séparait les garçons des filles à l'école. Au revoir et merci.
Séparer les garçons des filles, c'est maintenant, mais ça n'a pas toujours été le cas, Françoise Thébault.
Non, la mixité a une histoire, et ce n'est pas seulement une histoire scolaire, c'est aussi une histoire des relations entre les hommes et les femmes dans l'ensemble de la société.
Ça date de quand, cette histoire de mixité dans tous les établissements publics ?
C'est très récent en France. La mixité s'est généralisée dans les années 1970, à partir de la loi Habi. Elle existait parfois auparavant, sous forme d'expérience de mixité, ou comme un moyen de faire des économies. Par exemple, au XIXe siècle, on pouvait mettre dans une même école de village, petits garçons et petites filles, parce qu'on n'avait pas les moyens de faire deux écoles séparées et parce qu'il y avait peu d'enfants. Cette règle de la séparation scolaire des garçons et des filles est inscrite dans la pierre en France. Toutes les belles écoles construites sous la Troisième République contiennent en général trois bâtiments. Un bâtiment de garçons d'un côté, au milieu en général la mairie ou un autre bâtiment public et de l'autre côté un bâtiment de filles.
Et vous étiez dans une école où il y avait que des filles ou des filles et des garçons ?
Tout à fait, comme tous les enfants née dans les années 50. J'ai eu une scolarité en grande partie non mixte. Donc mixte à l'école maternelle, on met ensemble les petits garçons et les petites filles. Non mixte à l'école primaire. Non mixte au lycée, sauf pour la classe terminale, parce que j'ai choisi une section qui n'existait pas au lycée de jeunes filles.
On n'était qu'avec des filles.
Tout à fait, c'est une histoire. Ça paraît une évidence à beaucoup de gens aujourd'hui, sans doute à Noémie et à ses parents, mais c'est un phénomène relativement récent et qui a été encore peu analysé de façon historique. Alors, je crois qu'il faut répondre à la question de Noémie. Pourquoi avant, on séparait les garçons et les filles? Je crois donc qu'on les séparait au moins pour trois raisons. D'une part, parce que pendant longtemps, les filles n'ont pas eu la même instruction que les garçons. Le baccalauréat féminin n'a été créé en France qu'en 1919, baccalauréat masculin datait du Premier Empire. Deuxième raison, les sociétés du 19e siècle, d'une grande partie du 20e siècle, considéraient que les filles avaient une nature spécifique, qu'elles étaient fondamentalement différentes des garçons et bien souvent inférieures, et qu'on ne les destinait pas aux mêmes tâches sociales lorsqu'elles seraient grands et grandes. Les filles étaient formées pour devenir de bonnes mères et de bonnes épouses, les garçons pour exercer des talents à l'extérieur de la maison, au travail et dans la vie publique.
Donc elles n'avaient pas besoin des mêmes choses.
Elles n'avaient pas besoin des mêmes choses. Enfin, il y a une troisième raison importante et qui a été aussi beaucoup mis en avant par l'Église catholique pendant très très longtemps, c'est en quelque sorte la peur du danger moral de mettre ensemble filles et garçons, particulièrement à l'âge de l'adolescence. La sexualité des filles fait peur.
On avait peur qu'ils fricotent.
De désordre.
On s'est dit ça va.
Désordre sexuel et désordre social sont liés dans l'esprit de ceux qui dénoncent la mise en commun des garçons et des filles. Dernière chose peut-être à ajouter, bien que la règle soit une règle de séparation des sexes à l'école, il y a eu depuis très longtemps des militants et des militantes de la coéducation des sexes. Ces individus, enfin, femmes et hommes, féministes, pédagogues, anarchistes, souhaitaient éduquer ensemble les filles et les garçons. C'était pour eux un véritable choix de société qui devait construire de l'égalité ou au moins préparer des rapports plus harmonieux entre les hommes et les femmes.
Quel est l'événement qui a provoqué cette mixité à l'école ?
Je crois qu'on s'est habitué progressivement à la mixité des loisirs. C'est la mixité des loisirs est intervenue avant la mixité scolaire. C'est-à-dire filles et garçons se sont rencontrés dans d'autres lieux que l'école, bien avant que l'école soit mixte. Et progressivement, la mixité s'est aussi imposée comme une mesure commode devant l'augmentation des effectifs scolaires. Et puis parce que la société a évolué sur d'autres plans, que les femmes y ont acquis une place plus importante. Donc la mixité, en quelque sorte, est devenue une évidence.
Françoise Thébault a écrit « Quand nos grands-mères donnaient la vie, la maternité en France dans l'entre-deux-guerres » et c'était écrit, édité aux presses universitaires de Lyon. Françoise Thébault est historienne, professeure émérite, spécialiste de l'histoire des femmes. À propos de femmes et de loisirs, comme nous venons d'en parler, nous pouvons féliciter la première femme à avoir gagné hier la plus célèbre course de chevaux du monde, le Grand National de Liverpool, 7 km presque, 30 obstacles. Cette jeune jockey irlandaise s'appelle Rachel Blackmore et elle montait un cheval également irlandais. Bravo à tous les deux.
Bonjour, je m'appelle Leyman, je vais avoir 8 ans demain. Comment la sueur se produit et pourquoi quand on fait du sport, c'est comme ça qu'elle sort de notre peau? Merci.
Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 7 ans et demi, je voudrais savoir comment la sueur se fabrique.
Bonsoir Lucas, bon anniversaire au précédent. Docteur Patrick Gepner, médecin à l'hôpital Foch et auteur de la médecine pour les nuls et puis aussi du corps humain pour les nuls.
Alors, c'est très important parce que ça va m'obliger à parler à Lucas de ce que l'on appelle la thermorégulation, c'est-à-dire la régulation de notre température centrale interne qui normalement doit être à peu près de 37 degrés. Donc, la sueur, la transpiration participe au processus de thermorégulation, c'est-à-dire la régulation de notre température interne. Alors d'abord, la sueur, elle est produite comment? Effectivement, elle est produite dans la peau par des glandes. Pratiquement, il y a 3 millions de glandes sudoripares. Et ces glandes sudoripares produisent la sueur qui, quand on l'examine au plan chimique, c'est 99% d'eau. Il y a un petit peu de sel, c'est pour ça que la sueur est salée. Il y a des anticorps qui vont protéger notre peau d'agressions microbiennes extérieures. Et il y a une espèce d'antiseptique naturel que l'on appelle la dermicidine. Mais le principal objectif de la sueur, de la transpiration, c'est d'évacuer la chaleur produite en excès à l'intérieur de notre corps pour maintenir notre température interne à 37. Ce procédé d'évacuation, c'est tout simplement l'évaporation. C'est-à-dire que l'eau, la sueur qui arrive à la surface de notre peau, disparaît et est transformée en vapeur d'eau, c'est-à-dire réellement ce que l'on appelle un processus d'évaporation. Par cette évaporation, la température interne va pouvoir rester à 37.
C'est un liquide de refroidissement.
C'est un liquide de refroidissement. Et alors c'est surtout vrai ça lorsque, par exemple, on fait du sport. Parce que lorsque l'on fait du sport, la température interne s'élève énormément. Ah, pourquoi? Oui. Parce que les muscles consomment de l'énergie et la consommation d'énergie produit de la chaleur. Certains athlètes, dans les efforts de longue durée, par exemple le marathon, peuvent avoir une température intérieure qui peut monter de 2 à 3 degrés. On peut arriver jusqu'à 40. Et c'est pour ça donc qu'il y a la transpiration pour réguler, pour essayer de faire diminuer cette température intérieure. Et on sait que les sportifs de haut niveau, dans des efforts très prolongés, peuvent perdre en une heure jusqu'à 2 litres de sueur. C'est pour ça d'ailleurs aussi qu'il faut boire énormément
pour remplacer
quand on fait du sport. Et bien sûr, parce que la sueur, c'est de l'eau, et l'eau, il faut la remplacer. Il y a une situation où elle n'est pas efficace, c'est quand il fait très chaud et humide. Dans les pays tropicaux, par exemple, parce que là, l'évaporation ne peut pas se faire et la transpiration n'est plus un mécanisme intéressant d'évacuation de la chaleur.
Alors, docteur Gepner, pourquoi ça sent fort, la transpiration?
Alors, parce qu'il y a deux transpirations. Il y a la transpiration normale, je dirais, qui est un processus d'évacuation de la chaleur produite en cas d'effort physique en particulier. Et il y a une transpiration particulière qui est produite par des glandes sudoripares particulières qui se trouvent sous les aisselles et au niveau des plis inguinaux, c'est-à-dire en haut des cuisses, et qui est une transpiration qui est particulièrement riche en lipides. Et la dégradation de ces lipides à la surface de la peau produit des odeurs un peu désagréables. D'accord. Et au passage, je signale qu'il y a deux autres types de glandes sudoripares. Je vais vous surprendre. Ce sont les glandes sudoripares qui produisent le cérumen dans les oreilles. C'est une utilité importante, le cérumen. Ça permet d'enlever les débris et les microbes qui seraient rentrés.
C'est auto-nettoyant.
C'est auto-nettoyant. Ce sont des conduits auto-nettoyants. Et il y a une glande sudoripare dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Ce sont les seins. Les seins sont des glandes sudoripares dont la sécrétion sudorale très particulière est le lait chez les femmes allaitantes.
Merci, docteur Gepner. Vous savez que les chiens ultra performants qui font 200 flairs par jour pour détecter la Covid le font en flairant des cotons précédemment placés sous les bras des personnes testées. Une vie de chien.
Je te veux si tu veux de moi.
Naziza, vous aviez reconnu Daniel Balavoine, Jean-Joseph Julot, JJJ, vous le connaissez bien au Petit Bateau, professeur d'histoire, professeur de littérature, a écrit l'histoire, entre autres, hein, l'histoire de France pour les nuls des origines à 1789. Et vous pouvez trouver ses autres ouvrages sur le site des Petits Bateaux.
Bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 9 ans et je voudrais savoir pourquoi beaucoup de rois s'appelaient Louis.
Pourquoi beaucoup de rois s'appelaient Louis ? C'est Anna qui vous demande ça, Jean-Joseph Julot.
Eh bien, il faut lire, quand on lit Louis, il faut lire un autre nom qui est très connu aussi d'ailleurs, et qui est Clovis, ce roi des Francs, oui. Qui en 481 est devenu roi, il avait 15 ans. Et ce Clovis, eh bien, il a eu un destin quand même extraordinaire. C'est un Mérovingien, puisque son ancêtre s'appelait Mérové. C'est donc l'une des premières dynasties. On ne peut pas parler de roi de France, parce que la France n'existait pas. C'est le roi des Francs. C'est une peuplade qui a longtemps vécu au bord du Rhin, et qui a petit à petit envahi le nord de la Gaule et qui s'est installée. Et donc, en 81, Clovis devient roi des Francs. Il conquiert petit à petit ce territoire qui aujourd'hui s'appelle la France. Alors, Clovis, quand on décompose ce mot-là, on trouve deux racines germaniques. Ça vient de Hlod, c'est-à-dire H-L-O-D, qui veut dire gloire, et Vig, qui veut dire combat, c'est-à-dire le glorieux au combat. Et ça a donné en germano-latin, c'est-à-dire dans une langue qu'on écrit, qui vient du germain, mais qu'on écrit avec l'alphabet latin, ça a donné Clodovis. Puis Clodovicus. Et Clodovicus, c'est devenu petit à petit Clouis, Clodveg. Puis on a enlevé le C et ça a donné Louis, c'est resté. Donc ce qui est resté, c'est Louis. Louis, c'est Clovis, tout simplement. Et la forme élaborée, c'est Ludovic. Alors voilà. Donc on a beaucoup de Louis célèbres. On a Louis Ier. Louis Ier, c'est le fils de Charlemagne, Louis le Pieux. On a Louis VII, qui épouse Aliénor d'Aquitaine. Louis XI, fait l'unité de la France. On a Louis XIV, le roi Soleil. On a Louis XVII. Louis XVII, vous savez, qui est mort au temple, quoi qu'on en dise, en 1795. On a Louis XVIII, le frère de Louis XVI, et on a Louis-Philippe d'Orléans, mais aussi on a Louis XIX qui a régné une minute.
Non.
Si, parce que c'était le fils de Charles X, et puis Charles X a signé son abdication en 1830, et il a donné au duc d'Angoulême la plume pour qu'il signe, lui, son intronisation, en quelque sorte. Et c'était Louis XIX. Et il existe aussi un Louis XX aujourd'hui.
Mais pourquoi il n'est pas resté? Il est mort?
Non, parce que à 1830, eh bien, on n'en voulait plus. On voulait plus de la dynastie des Bourbons. C'était la Révolution en 1830. C'est les Trois Glorieux. C'est Louis-Philippe qui était non plus roi de France, mais roi des Français, qui s'est installé sur le trône. Et puis le dernier dont on peut parler, c'est Louis XX. Louis XX qui existe aujourd'hui et qui se dit, eh bien, le prétendant au trône de France parce qu'il descend Louis XIV. Mais il vit à Caracas. Donc il n'est pas encore arrivé sur le trône de France. Voilà.
Et voilà, Jean-Joseph Julot, restons dans l'histoire avec celle de la médecine cette fois. De la médecine de la préhistoire à celle de nos jours. Le professeur Jean-Noël Fabiani nous raconte le chemin de chaque découverte et c'est passionnant. Par exemple, si je vous dis vaccin, vous me répondrez Pasteur, bien sûr. Il est d'ailleurs en bonne place dans ce livre. Mais connaissez-vous Edward Jenner, né bien plus tôt que Pasteur, en 1749 ? Ce jeune médecin en Angleterre, pendant une épidémie de variole, remarque que les jeunes filles qui traient les vaches n'attrapent pas la variole. Pourquoi ? Elles ont des pustules sur les avant-bras, mais le reste du corps est sain. Elles ont le cowpox des vaches, sans danger pour l'homme. Il a alors l'idée d'inoculer le pus d'une pustule, d'une vachère, à un petit garçon qui développera à son tour une pustule, mais guérira de la terrible variole et ne l'attrapera pas, malgré des contacts avec les malades. Le cowpox, donc maladie de la vache, dit aussi vaccine, du mot vache, vacca en latin, l'a protégé. Un homme est alors très intéressé par cette découverte, c'est Napoléon, qui voudrait pénétrer avec ses troupes en Angleterre, mais ses hommes ne sont pas chauds parce qu'ils ont peur d'y attraper la variole. Il proposera alors la vaccination aux volontaires. N'est-ce pas tout à fait extraordinaire ? Passionnante encore et poignante, la création de la psychiatrie avec le docteur Pinel qui, à Kremlin-Bicêtre pendant la Révolution, décide d'enlever leur chaîne aux malheureux malades mentaux qui étaient attachés. La médecine racontée aux enfants aux éditions de La Martinière du professeur Jean-Noël Fabiani, dont la spécialité et le cœur. Je me suis dit que peut-être est-ce justement là qu'est la réussite d'un récit, d'un livre, dans le cœur. Podcaster ces petits bateaux, mes amis. Vous pouvez également les réécouter quand vous voulez par franceinter.fr. Merci à Tristan Gratalon, à Stéphane Combe, à Eliane Girard, à Marjorie Devoucoux, à Jean-Baptiste Audibert. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à partir de 19h30.